Chapitre 23. 10 chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Dans ce chapitre, la vie rêvée des romanciers et de leurs œuvres, un univers entier entre les pages. Vladimir Nabokov, romancier d'origine russe, disait que la littérature était née le jour où quelqu'un a crié « au loup » alors qu'il n'y avait pas de loup. Plus généralement, sous le terme de littérature, sont désignées les œuvres qui utilisent les moyens du langage oral ou écrit et auxquelles sont reconnues une valeur et une intention esthétique. La littérature est avant tout art, et qui dit art dit technique aussi, et la difficulté d'en donner une définition exacte a tenu à celle d'y intégrer des écrits philosophiques, politiques, des essais. Le choix de cette sélection littéraire tient au fait justement de montrer sa diversité et sa complexité à travers les productions de différentes époques et lieux. L'Iliade et l'Odyssée. Au nom d'Homère, poète ayant vécu sans doute au 8e siècle avant Jésus-Christ, sont associés deux longs poèmes épiques divisés en 24 chants, chacun d'environ 12 000 vers, et qui constituent les plus anciennes œuvres de la littérature occidentale, l'Iliade et l'Odyssée. Ces deux poèmes eurent une diffusion immense dans le monde méditerranéen grâce aux homérides ioniens qui se disaient les descendants ou les disciples du poète. Ils furent source aussi à travers les siècles d'inspiration pour les artistes, les peintres, les écrivains. L'existence d'Homère reste liée à un mystère. Même les anciens ne s'accordent pas à son propos. C'est surtout la dissertation latine de Friedrich August Wolff, Prolegomena ad Homerum, en 1795, qui pose la question de son existence réelle et donne naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la question homérique. Ainsi, sept cités grecques revendiquent l'origine de sa naissance, dont Chios, Colophon, Smyrne, tout autant que les interrogations sur la composition des deux poèmes attribués à un auteur unique ou à un groupe. La tradition le suppose aveugle, et c'est ainsi, par exemple, qu'il est représenté par le peintre William Bourgerot sur « Homère et son guide » réalisé en 1874. Le thème majeur de l'Iliade est la destruction de la ville de Troie en Asie mineure par les Grecs et les Achéens. L'enlèvement d'Hélène, épouse du roi Ménélas par le Troyen Paris, sert de prétexte à cette guerre. La colère d'Achille et ses conséquences, son désir de venger la mort de son ami Patrocle, constituent le centre du poème. Nous trouvons ici le grossissement épique, devenu une fonction majeure, repris par exemple avec cette œuvre de la littérature occidentale qu'est la chanson de Roland. Les quatre premiers chants de l'Odyssée, nom grec d'Ulysse, Odysseus, sont consacrés au voyage de Télémaque parti à la recherche de son père. L'arrivée d'Ulysse chez les Phéaciens et le récit de ses aventures concernent ensuite les chants 5 à 13. Les derniers, de 14 à 24, racontent son retour à Ithaque et sa vengeance. Le philosophe Vladimir Yankelevitch ajoute un 25e chapitre dans lequel il traite de la désillusion d'Ulysse à son retour en Ithaque. Bien avant lui, Dante, dans un chant fondamental, imagine que celui-ci ne rentre jamais en Ithaque et préfère l'exploration d'un monde inconnu à son retour. L'art d'aimer. Si parmi vous quelqu'un ignore l'art d'aimer, qu'il lise mes vers. C'est ainsi que le poète Ovide, de son vrai nom Publius Ovidius Naso, s'adresse aux Romains de la fin de la République dans son poème en trois chants. Le titre exact en est Ars Amatoria et renvoie au mot ars dont l'étymologie latine désigne un ouvrage théorique et didactique portant sur un sujet technique dont la vocation normative est de proposer des modèles à imiter. Plaire est une science pour Ovide, et il veut en donner un traité complet qui nous permet aussi de saisir les mœurs romaines sous le règne de l'empereur Auguste. Ovide naquit 43 ans avant l'ère chrétienne à Sulmone en Italie méridionale. Son surnom de Naso, qui signifie « gros nez », marque la disgrâce de cet organe disproportionné. Il a pour maître le plus habile des grammairiens de son temps, Plotius Grippus. Avant de prendre place parmi les poètes, il approche la carrière du barreau afin de complaire à son père. Il se perfectionne à Athènes dans l'étude des belles-lettres et de la philosophie. Le motif de son exil en l'an 8 après Jésus-Christ sur les bords du pont Euxin à Thomès est exposé dans l'édit de proscription d'Auguste. L'art d'aimer inciterait les Romains à la dépravation. Il nous laisse plusieurs œuvres dont les amours, les héroïdes et les métamorphoses, montrant qu'il a approché tous les genres, le genre élégiaque, épique et même dramatique avec Médée, une tragédie perdue. Sa popularité traverse les siècles puisque les poètes et les érudits, les écrivains du Moyen-Âge et de la Renaissance choisissent fréquemment leurs sujets dans ces légendes. L'art d'aimer connaît un grand succès à Rome. Dans le premier livre, Ovide, en véritable éducateur, révèle à son élève comment et où séduire l'éternel féminin. Une stratégie amoureuse domine, celle de feindre la plus vive passion sans jamais cesser de faire parade de ses talents. Le second livre montre les moyens d'entretenir et de transformer ce qui a été conquis en amour durable. Il peut être bon de se rendre indispensable. Dans le dernier livre, le troisième, Ovide s'adresse aux femmes pour leur prodiguer maints conseils sur la façon de varier les moyens de séduction selon son âge ou comment toujours soigner sa beauté en présence de son amant. En opposition à l'art d'aimer, Ovide rédige les remèdes d'amour supposés donner les moyens de résister à la passion amoureuse mais qui, en réalité, reprennent largement les thèmes du premier. Le Mahabharata. La plus vaste œuvre connue de la littérature hindoue, le Mahabharata ou la Grande Guerre des Bharata, est composée de 19 livres ne contenant pas moins de 120 000 versets. Elle aurait commencé à prendre forme aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ pour s'élaborer jusqu'au IVe siècle de notre ère. Compilation de récits oraux à l'origine, cette œuvre collective est néanmoins traditionnellement attribuée au mythique sage Vyasa. Le thème principal de ce qui constitue la plus grande épopée de la littérature mondiale est l'opposition entre deux grandes familles, les Pandavas et les Kauravas. Consacrée à Vishnu, cette épopée gigantesque insiste continuellement sur le rôle déterminant du karma, qui est le cycle des actions dans notre vie quotidienne. Le Mahabharata relate les tribulations de la famille royale des Bharata, originaire de la vallée de l'Indus. Deux branches familiales s'opposent et les premiers livres sont consacrés aux sources du conflit et expliquent comment les cinq Pandavas, après la mort de leur père Pandu, sont élevés avec leurs cousins les Kauravas qui sont jaloux et souhaitent se débarrasser d'eux. Les Pandavas représentent les incarnations des cinq divinités hindoues, Dharma, la justice, Indra, le feu, Vayu, le vent, les jumeaux Ashvin qui sont les équivalents hindous des Dioscures Castor et Pollux. Après de multiples péripéties, le royaume est partagé par l'aveugle d'Arthasastra. Mais l'animosité ne disparaît pas pour autant entre les cousins ennemis. Les Pandavas doivent s'exiler pendant 12 années après avoir tout perdu au dé, avant de demander la 13e année la restitution de leur royaume aux Kauravas comme convenu. La guerre, qui est la conséquence de leur refus, est l'objet des 5 livres suivants. Elle dure 18 ans. La Bhagavad Gita, ou « Chant du Bienheureux », le livre 6, est considéré comme le cœur même de ce récit. Krishna donne à Arjuna, le noble guerrier Pandava, son disciple, les conseils nécessaires pour atteindre la vérité et la connaissance. Aujourd'hui encore, le théâtre et le cinéma indien n'ont de cesse de s'inspirer du Mahabharata. Le metteur en scène Peter Brook en fit une adaptation éblouissante au théâtre en 1986, puis une série télévisée et un film en 1989. Le Di du Genji. Le Di du Genji, ou Genji Monogatari, a pour auteur Dame Murasaki Shikibu, dont nous savons bien peu de choses, sinon qu'elle nous laisse l'une des œuvres les plus importantes de la littérature japonaise. Deux parties composent ce long roman de quelque 54 livres et 300 personnages, au temps de la cour de Heian, entre 794 et 1185. La plus longue, qui va du livre 1 au livre 44, prend pour héros le Genji, fils de l'empereur éloigné du trône. La seconde partie du livre est plus brève, le livre 45 au livre 54 dépeint la destinée de Kaoru, son propre fils. Cette fresque monumentale n'a guère d'équivalent en Occident avant le XIXe siècle. Rattachée à une branche cadette du clan des Fujiwara, Dame Murasaki Shikibu fait partie d'une lignée à la fois de poètes et de dignitaires de la cour impériale. Elle devient, en raison de sa grande culture et de l'appui des Fujiwara, la préceptrice de la fille du tout-puissant ministre Fujiwara no Michinaga, dame d'atour d'une impératrice. C'est à cette époque qu'elle rédige le Di du Genji. En 1011, à la mort de l'empereur Ichijo, elle entre en religion. Sa fille, Daini no Sami, laisse elle aussi une œuvre, celle d'une délicate poétesse. L'importance, liée au dit du Genji, est de renouveler le genre romanesque jusqu'alors limité à des récits assez courts au Japon. Le terme de monogatari désigne à la fois des contes brefs et des recueils plus longs, tels le dit du Genji, un ouvrage fleuve de plus de 2000 pages. Dès l'époque Kamakura, entre 1185 et 1333, il est l'objet d'un grand nombre d'exégèses et de moult commentaires prolongés de la part des lettrés et des érudits. Un phénomène qui se poursuit aux époques suivantes, notamment celle des Tokugawa entre 1616 et 1868. La notoriété du roman se fonde davantage sur l'atmosphère qu'il évoque avec subtilité que sur l'intrigue développée. L'amour reste le thème dominant du récit sous toutes ses formes, des plus heureuses aux plus malheureuses. Tout est en prise dans le jeu du destin et celui du hasard. La Divine Comédie. Dante Alighieri est le plus illustre des poètes de l'Italie. Il peut être considéré comme son Homère. Son chef-d'œuvre, la Divine Comédie, composée entre 1308 et 1321, est un poème de l'exil dont le modèle est l'Énéide de Virgile. Il a été composé avant tout dans une intention morale, celle de ramener dans la voie du salut les hommes égarés et corrompus. Dante lui donne le nom de Comédie parce que c'est une œuvre souvent réaliste, familière et écrite en langue vulgaire. L'épithète de divine est ajoutée plus tard par ses admirateurs. La Vita Nuova, son autre œuvre, porte en germe les lignes fondamentales de la Divine Comédie, où s'achève la transformation du personnage de la femme aimée et perdue, Béatrice, en la figure allégorique et la voix d'un mode du langage poétique. Dante Alighieri naît à Florence en 1265. Il y passe une jeunesse studieuse, se mêle de bonheur aux luttes politiques et devient même un chef du gouvernement en qualité de prieur. À cette époque, Florence est en passe de devenir la plus puissante des cités d'Italie. Cependant, d'âpres discordes intestines la déchirent entre les gibelins, partisans de l'empereur et guelfes, et ceux du pape Boniface VIII, auquel Dante s'oppose. Le triomphe de ces derniers lui vaut un exil dont il ne se consolera jamais. Il erre alors en Italie plein d'amertume et de rancœur. Après la mort de son protecteur, l'empereur Henri VII, descendu dans la péninsule pour y rétablir l'ordre et la paix, il doit renoncer à jamais revoir s'ouvrir les portes de sa patrie. L'affection du prince Guido d'Apolenta le fixe à Ravenne, où il s'éteint le 14 septembre 1321. Avec la Divine Comédie, élaborée entre 1308 et 1321, Dante construit une œuvre savante qui obéit à la fois à des lois arithmétiques et rationnelles, mais aussi théologiques. Son plan est d'une symétrie parfaite. Le poème est divisé en trois cantiques, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Virgile guide le poète jusqu'aux limites du purgatoire où il est relayé par Béatrice. Chaque cantique ou chant se compose de 33 chants plus un chant qui sert d'introduction, soit au total 100 chants. Chaque chant est formé de strophes, de 3 vers chacune. L'enfer est divisé en 9 cercles ou gigantesques terrasses. L'ombre de Virgile, qui va lui servir de guide, apparaît dans la forêt précédant l'enfer pour le quitter à la sortie du purgatoire. Si Dante est l'homme égaré, Virgile personnifie la raison et la sagesse humaine, suffisantes pour lui inspirer l'horreur du mal, l'enfer et le désir de s'en détourner. Les mille et une nuits. C'est en 1704, grâce à la traduction française d'Antoine Galland, que l'Occident découvre avec ravissement ces contes arabes anonymes que sont les Mille et Une Nuits, ou Alf Layla wa Layla. Sur la naissance du livre plane un épais mystère. Les Mille et Une Nuits sont une œuvre de compilation à partir de contes et légendes persans. Le plus ancien témoignage connu serait dû à un savant au Xe siècle de notre ère, Mas'oudi, qui évoque un ouvrage intitulé « Mille récits extraordinaires », Al-Khurafa en arabe, Ezar Afsana en persan. À partir du noyau premier d'origine persane avec des emprunts indiens traduits en arabe au 8e siècle, le texte s'est ramifié en s'adjoignant de nouvelles sources égyptiennes notamment, turco-mongoles ou byzantines. Les Mille et Une Nuits sont un ensemble complexe de contes imbriqués les uns dans les autres et de personnages en miroir, ce qui offre plusieurs lectures possibles. Le livre s'ouvre par le désir de vengeance du roi Shahriyar, mortifié de la découverte de l'infidélité de son épouse. Il décide de faire mourir chaque matin la femme avec laquelle il aura passé la nuit. Pendant 3 ans, la sanglante coutume est appliquée. Jusqu'au moment où Scheherazade, la fille du vizir, décide de s'offrir au roi pour y mettre fin. Sa stratégie est de raconter chaque soir une nouvelle histoire qu'elle prend soin de laisser inachevée. Piqué par la curiosité, le roi remet toujours au lendemain sa funeste sentence. Au terme du livre, Scheherazade, qui a donné 3 enfants au roi, devient reine. Le recueil tel qu'il nous est parvenu associe récits historiques et pure fiction. La justice est l'un des thèmes les plus fréquemment évoqués, sous sa forme terrestre, rendue par le souverain, mais aussi sous sa forme divine. De cette époque date aussi le récit du voyage de Sinbad le marin. Le succès immense de cette œuvre mise en musique par Maurice Ravel en 1903 avec Scheherazade ou adaptée au cinéma par Pier Paolo Pasolini en 1974 tient à une philosophie de l'existence et de ses fondements éthiques mise en valeur par le merveilleux des contes. Le rêve dans le pavillon rouge. Seuls les 80 premiers chapitres de ce qui est considéré comme l'une des œuvres majeures de la littérature chinoise, le Hong Lu Meng, Le rêve dans le pavillon rouge, aurait été écrit par Cao Shuxin. En 1791 paraît la première édition de cette œuvre qui comprend alors 120 chapitres en raison des 40 supplémentaires dus au lettré Gao He, roman de mœurs de l'époque des Qing. Le rêve dans le pavillon rouge est un miroir de la société chinoise du XVIIIe siècle. L'itinéraire de Jia Baoyu, surnommé Jade précieux, marqué par les séparations, les réconciliations, les réunions, l'alternance de joies et de peines sert de prétexte à une fresque qui compte près de 450 personnages. Elle relate le déclin d'une grande famille dans la Chine des mandarins du XVIIIe siècle. Cao Shuxin s'appuie sur son expérience personnelle, une vie marquée par un destin contraire, la ruine et le déclin de sa famille, la gêne, l'excès de boissons et la mort prématurée de son fils. L'ouvrage s'inspire d'une réalité vécue et d'une souffrance réelle. Les Cao sont une grande famille au début du XVIIIe siècle, avec la charge d'intendant des soieries impériales de Nankin. À la mort de l'empereur Kangxi, la famille Cao, criblée de dettes, est destituée du titre d'intendant. Ses biens sont confisqués. Cao Shuxin finit sa vie dans la misère et l'alcool et meurt vers 1762-1764. Le pavillon rouge désigne les appartements intimes des femmes de grandes maisons. Le rouge dont étaient peintes les riches résidences symbolise le bonheur et le luxe. L'histoire prend place à Chitou, la ville de résidence impériale dans la maison de la famille Jia. Descendant du duc Rong, Jia Zheng a 2 enfants, Yuan Chun, future concubine impériale, et Jia Baoyu, durement traitée par son père Jia Zheng. Heureusement, il vit sous le même toit que sa cousine Lin Daiyu, qu'il aime profondément. Dès que sa sœur est choisie comme concubine impériale, la famille connaît une ascension spectaculaire. Mais le malheur est proche, il marque la descente aux enfers de la famille Jia. Aux portes de la mort, Jia Baoyu est sauvé par un moine qui lui rapporte le jade précieux. Malgré tout, il finit ses jours en ascète aux pieds nus, revêtu d'une peau d'orang-outan. Guerre et paix. Écrit en 5 ans par Léon Tolstoï et publié en 1878, « Guerre et paix » est une œuvre gigantesque de la littérature russe et a pour toile de fond les grands événements historiques de l'épopée napoléonienne, dont la campagne d'Austerlitz en 1805-1806 et celle de 1812-1813 avec la bataille de Borodino et l'incendie de Moscou. Pourtant, ce roman est avant tout la chronique de 2 familles, les Bolkonski et les Rostov. Il introduit dans l'action non seulement les membres de ces 2 familles, mais encore une foule d'autres personnages, gens du peuple ou tout autre membre de la société, civil ou militaire, paysan ou chef d'État. C'est une sorte de somme de la vie russe qu'il nous offre, car la guerre n'apparaît que dans certains tableaux, tandis que la vie civile, avec ses plaisirs et ses intrigues, ses mariages et ses divorces, y occupe une très large place. Le comte Lev Nikolaïevitch Tolstoï, en français, Léon Tolstoï, naît à Yajnaya Polyana, près de Toula, au sud de Moscou, dans une propriété de famille. Orphelin de très bonne heure, il est élevé par diverses parentes et son éducation est celle de tous les jeunes russes de sa classe sociale. Il sert le tsar en qualité d'officier d'artillerie, mais démissionne de l'armée en 1856, à la fin de la guerre de Crimée. Les préoccupations religieuses deviennent le centre de son existence. Il découvre l'amour de la vie grâce au Caucase et à ses rudes populations. Ce fervent disciple de Rousseau, admirateur de Pouchkine, Gogol et Montesquieu, voit sa foi ébranlée par les horreurs du siège de Sébastopol. Il place alors son espoir dans le progrès et fonde une école dans la propriété familiale. Il se marie et écrit ses 2 chefs-d'œuvre, Guerre et paix et Anna Karénine, qui est une chronique de la haute société russe de l'époque. À partir de 1873, il connaît une crise religieuse, se convertit au catholicisme et en élabore une vision personnelle rationaliste qui l'amène à élaborer un projet de vie sociale dans lequel il condamne la guerre, refuse la justice humaine et le pouvoir de l'État. Il est excommunié par l'Église orthodoxe après la publication de Résurrection en 1899, mais il continue à vivre paisiblement à Yajnaya Poliana jusqu'au petit matin du 28 octobre 1910 où il part en cachette. Il meurt d'une pneumonie le 7 novembre, seul, à la gare d'Astapovo. La guerre et la paix, ou guerre et paix, est une œuvre en quatre parties et un épilogue. La première se situe en juillet 1805 avec les guerres de la Troisième Coalition. Ce tableau de la société russe est à la fois une véritable épopée, un roman d'analyse psychologique et une fresque historique. Des centaines de personnages y trouvent place et deux figures sont au premier plan, André Bolkonski et Pierre Bezoukhov, qui incarnent l'âme même de Tolstoï. Les batailles y sont décrites à la façon d'un Waterloo dans la Chartreuse de Parme. À la recherche du temps perdu. L'auteur Marcel Proust est l'écrivain de la Belle Époque, période qui voit s'éteindre le monde raffiné de la noblesse pour laisser place à la bourgeoisie. À la recherche du temps perdu est une accumulation de souvenirs qui, retraduite par son héros narrateur, en fait une autobiographie à peine déguisée. Publiée entre 1913 et 1927, elle comprend en tout 7 parties, dont 4 leçons du vivant de l'auteur. Du côté de chez Swann en 1913, à l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1919, le côté de Guermantes 1 et 2 entre 1920 et 1921 et Sodome et Gomorre entre 1921 et 1922. Les 3 dernières sont publiées à titre posthume, La prisonnière en 1923, La fugitive ou Albertine disparue en 1925 et Le temps retrouvé en 1927. La vie de Valentin Louis-Georges-Eugène Marcel Proust peut se diviser en 2 époques. Celle d'après son enfance, la formation qui s'étend de 1882 à 1909, et celle de la réclusion, de la réalisation de son œuvre monumentale de 1909 à sa mort, le 18 novembre 1922. Entre 1882 et 1909, il entame une vie mondaine brutalement interrompue par la mort de sa mère en 1905. Il accumule des matériaux, d'À la recherche du temps perdu, puis Jean sans œil, jusqu'à la phase de maturation, et commence en 1908. À partir de 1909, il se cloître dans sa chambre, rédige la recherche depuis la publication à compte d'auteur du côté de chez Swann jusqu'au prix Goncourt récompensant À l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1919. La pneumonie, jointe à l'épuisement consécutif à un travail harassant, l'emporte le 18 novembre 1922. Dans son œuvre principale, À la recherche du temps perdu, en 7 parties, l'unité de l'ensemble est maintenue par le jeu du narrateur depuis l'enfance à Combray dans Du côté de chez Swann, les rencontres amoureuses dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, la duchesse de Guermantes dans Le côté de Guermantes, la révélation de l'homosexualité dans Sodome et Gomorre, l'amour tragique pour Albertine, exclusive dans La prisonnière, jusqu'à la mort dans Albertine disparue, enfin la clôture du cycle dans Le temps retrouvé. Au travers de chaque expérience, le narrateur découvre le temps qui modifie les êtres, la possibilité de reconquérir le passé par l'œuvre d'art qui illumine la vie véritable. Chaka, une épopée bantoue. La littérature africaine est injustement méconnue. Thomas Mofolo donne avec Chaka, une épopée bantoue en 1925 une œuvre puissante et singulière, à la fois drame d'une nation et destin héroïque d'un homme. Thomas Mofolo naît en Afrique du Sud. Il appartient à l'ethnie Soto, un groupe bantou venu d'Afrique centrale au cours du XVIe siècle. Il vit au Lesotho, l'un des petits États à l'indépendance précaire d'Afrique du Sud. Son éducation est placée sous la responsabilité de missionnaires qui l'encouragent à écrire. Il publie ainsi en 1907 un premier roman initiatique, Le Voyageur de l'Ouest, qui est le récit du périple d'un jeune homme en quête d'un monde idéal, puis en 1910, Pitsang, ouvrage consacré à l'éducation sentimentale vertueuse d'un jeune couple. Ces deux œuvres exaltent le christianisme. Dans Le Voyageur de l'Ouest, le héros succombe à la vision du Christ en gloire. Dans Pitsang, le couple reprend l'œuvre des missionnaires qui les ont formés. Son œuvre la plus forte, Chaka, une épopée bantoue, provoque la rupture d'avec les missionnaires. Thomas Mofolo exerce diverses professions avant de devenir fermier. La fin de sa vie est très mal connue, il meurt probablement dépossédé de ses terres au profit d'un fermier blanc. Chaka, une épopée bantoue, est le troisième roman de Thomas Mofolo, écrit à l'origine en langue sesotho, soto du Sud, une langue bantoue parlée en Afrique australe, puis traduite en anglais en 1931 sous le titre Chaka, an historical romance. Cette version, amendée pour la rendre plus acceptable par un public occidental, est suivie en 1981 seulement d'une traduction non censurée qui rend véritablement la puissance de l'ouvrage. C'est un roman historique destiné à retracer la vie du roi Chaka, créateur et organisateur de la nation, puis du royaume Zoulou, en Afrique du Sud, au début du XIXe siècle. Renommé pour son courage, sa grande force physique mais aussi son aptitude à la cruauté, Chaka finit assassiné par son propre frère. L'écriture de Thomas Mofolo, à mi-chemin entre le conte oral et le roman biographique, se prête admirablement à la restitution des ambitions et de leur suite tragique du jeune chef, tout autant qu'à la volonté de fournir à la littérature africaine un monument lié à son histoire politique. Le choix fait par l'auteur de perpétuer une tradition de transmission orale a fait comparer Chaka, une épopée bantoue, à un poème épique, une véritable odyssée africaine.